Maintenant, je bénis mon mari pour ce qu'il va dire et je suis sûre que vous allez être excessivement bénis.
Gloire à Dieu, je suis content qu'elle soit en vie, hein? Amen! Gloire à Dieu! Merci, Corinne. Vous savez, souvent de fois qu'on va dans des réunions comme ça, on est un petit peu déçu. Il n'y a pas beaucoup de monde. Même s'il y avait 2000 personnes, lorsqu'on va à une rencontre comme ça, on y va pour soi. Et on s'attend à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu ait peut-être une réponse à nous donner par rapport à notre situation. Donc, j'espère que vous êtes venus dans cet esprit-là et que vous vous attendez à ce que Dieu puisse, à travers sa parole, ce soit peut-être vous avez déjà été touché par juste le partage que Corinne vient de nous donner, mais je crois de tout mon cœur que jamais il y a un message qui est donné sans qu'il puisse nous apporter quelque chose. Si on a un esprit ouvert, si on est prêt à entendre ce que Dieu veut nous dire, eh bien, à ce moment-là, nous allons recevoir de la part de Dieu ce soir. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, j'aimerais commencer avec deux versets. Le psaume 119 au verset 92 dit, « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Et l'autre verset est tiré de Proverbe 24, verset 10. « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Prions ensemble. Éternel notre Dieu, le psalmiste me dit que s'il n'avait fait de ta loi ses délices, il aurait péri dans sa misère. Et que si nous faiblissons au jour de notre détresse, notre force n'est que détresse. Nous prions afin que l'onction de ton Saint-Esprit puisse, à travers la parole qui va être proclamée ce soir, produire dans nos cœurs ce pourquoi tu l'as envoyé, afin que notre attitude de foi puisse t'honorer en toutes circonstances. C'est ma prière dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. J'étais interpellé par ce passage du psaume 119, 92. Si je n'avais fait de ta loi mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Et j'ai réalisé que les épreuves, c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'afficher sur le mur pour invoquer, demander à Dieu de nous envoyer des épreuves. Les épreuves sont là plus qu'on en voudrait. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs ici, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ça fait 36 ans que, par la grâce de Dieu, j'ai eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, où je suis né de nouveau en décembre 1980. Et j'ai pris conscience que le fait d'être devenu enfant de Dieu, loin d'avoir éloigné de moi les épreuves, j'avais l'impression que j'avais plus d'épreuves maintenant que j'étais chrétien qu'avant de devenir chrétien. Et ce n'est pas que j'en avais plus, mais c'est qu'avant d'être chrétien, je fuyais les épreuves. Je les fuyais dans la drogue, dans l'alcool. J'ai un parcours de drogué. J'ai été consommateur de drogue pendant 18 ans, de l'âge de 14 ans à 32 ans. Et c'est quand j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ que j'ai été complètement et instantanément délivré de 18 ans de consommation. Donc, je fuyais les problèmes, je fuyais les difficultés dans l'alcool, dans le jeu, dans le sport, dans le travail, à m'étourdir partout, mais je ne peux pas dire que j'étais quelqu'un qui faisait vraiment face aux difficultés de la vie. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai appris qu'il fallait maintenant faire face à ces choses parce que Dieu était avec moi pour me rendre plus que vainqueur dans toutes ces choses. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que j'avais bien plus de problèmes que je pensais, parce que là, maintenant, je ne les fuyais plus. Là, maintenant, j'avais décidé de faire face. Et dans mes courriels, souvent, je mets des petites pensées. Il y a une pensée qui dit, « Ce que je fuis me poursuit et me détruit. Ce à quoi je fais face, s'efface. » Mais moi, j'avais fui toute ma vie. Et là, Dieu me disait, « Maintenant, je vais t'apprendre à être un homme de Dieu, un homme qui est capable de faire face à ses responsabilités, de les assumer. » Être capable de faire face à la difficulté en s'appuyant non plus sur ses propres capacités, mais en s'appuyant sur moi, dit l'Éternel. Et là, j'ai pris conscience qu'effectivement, eh bien, des épreuves, il y en avait, mais il y en avait plus que j'aurais souhaité. Et 36 ans plus tard, je me tiens devant vous ce soir, puis j'aimerais vous dire, j'ai réalisé qu'il y a trois catégories de croyants. Je pourrais résumer qu'il y a trois catégories de croyants sur la terre. La première catégorie sont des croyants qui sont en plein cœur d'une épreuve présentement. Est-ce qu'il y en a ici ce soir, vous êtes là et vous traversez une épreuve? Vous êtes dans une épreuve. OK? Juste une personne? Deux? Ouais, OK. Amen. Donc, vous êtes dans la première catégorie de croyants. La deuxième catégorie sont les croyants qui viennent de sortir victorieusement d'une épreuve. Est-ce qu'il y en a, vous avez eu une épreuve, mais vous l'avez surmontée victorieusement? Alléluia! Et la troisième catégorie de croyants sont ceux qui s'en vont vers une épreuve. Mon frère dit, ouf! Ben oui, mais n'est-ce pas la réalité de la vie? Aussitôt que tu as une épreuve de régler, il en arrive une autre et tu n'as pas commencé à t'attaquer à cette épreuve-là qui en surgit une autre. Donc, notre prière ne devrait pas être de dire, Seigneur, épargne-moi des épreuves, mais apprends-moi dans l'épreuve à toujours avoir la bonne attitude de foi. Parce que le nom de notre ministère, qui est plus que vainqueur, est tiré de Romains 8, 37. Et Romains 8, 37 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par nos propres forces, non, par Jésus-Christ qui nous a aimés. » Mais quand on dit « Mais dans toutes ces choses », mais c'est quoi toutes ces choses? Et si on lit les versets qui précèdent dans le chapitre 8, bien, il y a des persécutions, il y a des tribulations, il y a des trahisons, il y a de l'abandon, il y a à peu près tout ce que tu pourrais imaginer. Et Paul dira aux Romains, mais dans toutes ces choses que je viens de citer dans les versets qui ont précédé, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Wow! Et ça m'a interpellé ce verset. Et j'en ai fait le verset thème de mon ministère quand, 26 ans passés, j'ai quitté carrière et profession pour répondre à l'appel de Dieu et aller à temps plein dans le ministère. Un jour, je suis en tournée, invité par la communauté des hommes d'affaires du plein Évangile, et le couple qui nous accueille avait sur son frigo une prière que l'épouse avait mise sur le frigo. Et, comme souvent de fois, on a des versets bibliques, on a des pensées qu'on affiche comme ça. Elle avait mis sur son mur, pas sur son mur, mais la porte de son frigo, la prière suivante. Et ça disait, « Dieu, pour te prouver la confiance que j'ai en toi, je te dis merci d'avance pour tout ce qui va m'arriver aujourd'hui. » Wow, j'ai dit ça, c'est une belle prière. Fait que je l'ai copiée et j'en ai fait mienne. Et je l'ai affichée dans le miroir de ma salle de bain. Et tous les matins, dans les semaines qui ont suivi, quand j'allais à la salle de bain, devant le miroir, je déclarais, je disais à Dieu, « Dieu, pour te prouver la confiance que j'ai en toi, je te remercie d'avance pour tout ce qui va m'arriver aujourd'hui. Alléluia! » Et je commençais ma journée. Et est arrivée une journée où, le matin, j'avais fait cette proclamation comme tous les autres matins, mais il m'est arrivé une situation où j'ai commencé à murmurer, à me plaindre, à critiquer, à faire ce qu'on appelle chez nous de la pite aiguë. Vous connaissez ça, de la pite aiguë? De la pite aiguë, non? De la pite aiguë, c'est de l'apitoiement excessif sur soi-même. « Pauvre petit moi, ça va pas. Eux sont bénis, moi pas. » Et là, tu commences à te regarder le nombril et tu oublies de regarder plus haut. Et tu commences à te décourager, puis à murmurer, puis à dire des paroles négatives à cause de la situation. Et là, j'étais dans cet état-là. Je n'avais pas l'attitude du plus que vainqueur à ce moment-là. Et le Saint-Esprit est venu me rappeler tout doucement, « Mais Michel, qu'as-tu déclaré ce matin devant ton miroir dans la salle de bain? » Ben, j'ai dit que Dieu, pour te prouver ma confiance en toi, je te remercie d'avance pour tout ce qui m'était arrivé. Ah? Ben, dis-lui merci. Oh, ben, attends, si j'avais su qu'il était pour m'arriver quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr que je lui aurais dit merci d'avance. Mais il dit, Michel, pourquoi cette prière-là t'a interpellé? Pourquoi t'en as fait tienne, cette prière? Ben, parce que je crois que Dieu règne. Puis que j'ai confiance en lui, puis que comme un bon père, il veille sur moi, puis il ne veut pas que, il veut pas que je périsse, il ne veut pas qu'il m'arrive du mal. Ah bon? Et tu croyais vraiment ça, que Dieu régnait? Il dit, Michel, est-ce que tu crois vraiment que Dieu règne? J'ai dit, ben oui, je le crois. Il dit, réponds pas trop vite. Réfléchis. Crois-tu vraiment que ton Dieu règne? Et là, je me suis arrêté. J'ai dit, si je crois vraiment que mon Dieu règne, ça veut dire que mon Dieu, il est au-dessus de tout. Mon Dieu est un bon Dieu. Il veut des bonnes choses pour moi. Ce n'est pas un Dieu qui veut du malheur pour moi. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Car j'ai formé sur toi des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. » Dieu a promis dans sa parole, dans le psaume 34 au verset 20, il est écrit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre quelquefois. » Pardon? Pas quelquefois, toujours. L'Éternel l'en délivre, toujours. Rappelle-toi de ces choses, Michel. Dieu est un bon Dieu. Et il n'y a pas une épreuve qui survient qui est plus forte, plus grande, plus grande que ta capacité à y faire face si tu t'appuies sur Dieu. Et au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive? » dis « Pour espace quoi? » Pour quoi? Que veux-tu m'apprendre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette épreuve dans ma vie? Est-ce que c'est moi qui est en faute? Commence par t'examiner. Si tu es dans une épreuve parce que tu as mal agi, tu as été malhonnête ou peu importe, et tu récoltes ce que tu as semé, ben, tu as beau chasser les démons jusqu'à être bleu dans le visage, il n'y a rien qui va se passer. Ce n'est pas le diable qui est derrière l'épreuve qui t'arrive. C'est ton résultat de ta semence. Mais si ce n'est pas de toi, ça peut être le diable. La Bible a dit, ben, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable d'une foi ferme, il s'enfuira loin de vous. Et même si c'était le diable, la Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est dans le même chapitre 8 de Romains. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me rappeler ces versets-là et dire, rappelle-toi pourquoi cette prière t'a tellement interpellé. Parce que tu sais que ton Dieu règne et tu as confiance en Dieu. Et tu sais qu'il va faire concourir toute situation à ton bien, attendu que tu aies la bonne attitude. C'est là la question. La clé, c'est nous qui la détenons. Quelle est mon attitude quand survient dans ma vie une difficulté, une épreuve? Est-ce que, comme les gens du monde, quand il y a un problème, quand une épreuve, je murmure, je critique, je me décourage, je déprime, je dis des paroles que je ne devrais pas dire, j'ai un comportement que je ne devrais pas avoir, ou si contrairement à ceux du monde, même quand arrive l'épreuve, je me tourne vers mon Dieu et je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais j'ai confiance en toi. Apprends-moi pour quoi il y a cette situation dans ma vie. Pour quoi? Vous savez, je dis une petite phrase comme ça qui est percutante quand même, qui dit, il n'y a pas d'épreuve, pas de preuve. C'est dans l'épreuve que je vais faire mes preuves. C'est Jacques qui dira, tu me dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Quelles œuvres il parle? Montre-moi ton attitude. Comment tu réagis quand il y a une épreuve? Comment tu réagis quand la situation est contraire à ce que tu aurais souhaité? Quand on te calomnie, quand on te trompe, quand on triche, quand on te ment, quand on n'accomplit pas ce qu'on avait dit qu'on t'accomplirait, quand on dit du mal de toi, comment tu réagis? Comment tu réagis dans les différentes épreuves de la vie? Est-ce que tu réagis comme les gens du monde? Ou si par ton témoignage, par ton attitude, tu démontres aux gens que toi, tu te confies à un Dieu qui est tout-puissant et que c'est lui qui va agir? Job est le livre qui est le plus cité de tous les livres de la Bible, quand on parle d'épreuves, quand on parle de difficultés. Et au chapitre 19 du livre de Job, Job a tout perdu. Il a perdu sa femme, ses enfants, ses possessions matérielles, son bétail. Et pour arranger la chose, sa femme, avant de mourir, lui dit « Maudit Dieu et crève ». Bel encouragement, hein? Quand tu es en pleine épreuve, tout s'écroule autour de toi. Et au lieu d'avoir du réconfort, du soutien, ta femme a dit « Hey, le Dieu en qui tu te confies, là, tu vois bien, il n'agit pas. si Dieu existait, il ne t'arriverait pas ça. Maudis-le et crève. Et la Bible nous dit que Job, dans toutes ces choses, ne pécha point par ses lèvres. Et au chapitre 19, au verset 25, Job, je paraphrase, dira, je ne comprends pas pourquoi ces choses-là m'arrivent. Moi qui étais juste, moi qui étais un des plus justes sur la terre, ce n'est pas parce que tu es juste que tu vas être épargné des épreuves. Au contraire, ceux qui voudront vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. C'est un verset de la Bible aussi. Mais Job, il dira, si j'avais été Dieu, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Moi, je n'aurais pas permis que ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas moi qui est Dieu. C'est toi. Et donc, Job dira, je ne comprends pas pourquoi ces choses m'arrivent, mais il y a une chose que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. En d'autres mots, dans ma circonstance, dans ma situation, je ne comprends pas pourquoi je vis cette épreuve, pourquoi il y a telle situation dans ma vie, mais celui qui va avoir le dernier mot dans ma situation, c'est l'Éternel parce qu'il est vivant et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Alléluia, ça change. Ça commence à changer, pas la circonstance, pas l'épreuve, mais ton attitude. Ton attitude démontre que tu as la foi et tu as la confiance en ce Dieu en qui tu as mis ta confiance et que le Dieu en qui tu as mis ta confiance est tout-puissant et capable d'agir. Mon attitude, plus que mes aptitudes, va déterminer mon altitude. Dans les temps d'épreuve, c'est des temps pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Mais tu vas dire, attends, c'est pas le premier réflexe qui me vient, moi, de louer Dieu. Vous savez, je vous disais en introduction que je viens d'un arrière-plan où j'ai été drogué pendant. J'ai consommé des drogues pendant 18 ans. Et après ma conversion, un des versets qui m'a complètement percuté, c'est dans Jacques, au chapitre 1, les versets 2 et 3. Écoutez bien ce que l'apôtre Jacques dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand j'ai lu ce verset-là la première fois, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, j'ai dit, écoute, Jacques, soit qu'il en fumait du bon, à cause de mon arrière-plan, ou que Jacques avait compris quelque chose que moi, je n'avais pas compris encore. Et c'est évident que ce n'est pas parce qu'il fumait, Jacques. Hein? Jacques avait compris que son Dieu régnait et qu'il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une situation qui pouvait lui arriver qui échappe au regard de son Dieu. Si tu crois que Dieu règne, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé dans la personne de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, à la croix de Golgotha, si tu crois que ce Dieu-là règne et que tu lui as donné ta vie, sache que ta vie lui appartient. Ta vie est entre ses mains. Et il n'y a pas une circonstance, il n'y a pas une situation qui échappe au regard de Dieu. Une des histoires que j'aime partager quand je parle justement de l'épreuve et les difficultés auxquelles on peut faire face, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach, merci chérie, et Abednego. Ces trois jeunes hommes sont en captivité à Babylone. Et malgré leur captivité en Babylone, ils continuent avec Daniel, qui est un peu leur mentor, à prier trois fois par jour, tourner vers Jérusalem, et ils honorent leur Dieu. Et des gens qui sont jaloux d'eux formantent un projet, et ils vont vers le roi Nebuchadnezzar et lui disent de faire ériger une statue à son effigie, et que quand ils sonneront des instruments, tout le peuple devra se prosterner et adorer la statue. Et que ceux qui ne le feront pas seront punis de mort. Et c'était pourtant d'un piège à Daniel et ses compagnons. Et donc, le roi Nebuchadnezzar a fait le décret. Ils ont construit la statue à son effigie. Et quand ils sonnaient les instruments qui sont décrits dans Daniel 3, qu'est-ce qui arrivait? Eh bien, tout le peuple se prosternait et adorait la statue, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Et donc, le roi était en fureur contre le fait qu'il n'acceptait pas de se prosterner devant sa statue, les a fait venir devant lui. Et là, il leur a dit, « Tenez-vous prêts, et au moment où vous allez entendre les instruments, vous allez vous prosterner et adorer ma statue, sinon on vous jette dans la fournaise ardente de feu. » Et là, les trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit au roi Nebuchadnezzar, « Sache au roi qu'il n'est pas question pour nous d'adorer aucun autre Dieu que notre Dieu. » Et là, le roi a été en fureur que quelqu'un ose lui tenir tête. Et la Bible dit qu'ils ont fait chauffer la fournaise 7 fois plus. Je ne sais pas comment tu peux chauffer 7 fois plus, mais déjà, elle était une fournaise de feu ardent. Mais elle est devenue tellement chauffée que les serviteurs qui ont lié Shadrach, Meshach et Abednego avec des vêtements et les ont jetés dans la fournaise sont morts brûlés. Et le roi, il était interpellé par le courage de ces jeunes hommes. Et vous savez, les gens peuvent se moquer de notre foi, de nos convictions. Mais les gens vont toujours avoir du respect pour quelqu'un qui a des convictions et qui s'y tient. Quand on tient ferme sur nos convictions, avec le temps, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui parle beaucoup plus fort que beaucoup de nos paroles parfois. Et le roi, il dit, mais dans tout mon royaume, il n'y a que 3 personnes qui ont assez de courage, de conviction pour refuser d'adorer une statue en or. Et il s'approche de la fournaise pour voir qu'est-ce qui est arrivé à ses 3 compagnons qui avaient témoigné devant lui que leur Dieu, le Dieu en qui ils avaient mis leur confiance, les délivrerait de la fournaise. Et quand il s'approche de la fournaise, le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il voit? Il dit à ses serviteurs, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise? » Et les serviteurs ont dit, « Oui. » Il dit, « J'en vois 4 sans lien. » Et le 4e a l'apparence d'un fils de l'homme. Qui, selon vous, était le 4e homme dans la fournaise? Plusieurs morales à tirer de cet exemple. Dans ta fournaise, la fournaise de l'épreuve dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui, mon frère et ma sœur, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Oublie pas. Oublie jamais. Parce que Jésus l'a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus l'a promis, il l'a dit, je suis avec vous. Donc, il est avec toi dans ton épreuve, comme il a été avec Shadrach, Meshach et Abednego. La deuxième morale qu'on peut tirer de cette histoire, l'épreuve peut servir à brûler des liens que parfois on ne soupçonne même pas être dans notre vie. Le feu de Dieu est un feu pour nous libérer, pour nous rendre libres, pour nous affiner. D'ailleurs, ce que l'apôtre Pierre nous dit, je vais vous le citer pour ne pas dire n'importe quoi, dans 1 Pierre 1, les versets 6 et 7, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'apôtre Pierre, il dit, il faut que pour un peu de temps, c'est combien long un peu de temps? On ne peut pas le déterminer. Mais il dit que pour un peu de temps, il faut que vous soyez éprouvés par diverses épreuves. Pourquoi? Parce qu'on est à l'école de la foi. Et notre foi, elle est plus précieuse que l'or pur qui pourtant est épuré par le feu. Quelqu'un arrive et dit, j'ai un lingot d'or pur. Hein? On va voir s'il est pur, on le chauffe. Et là, s'il y a des scories, s'il y a des impuretés dans l'or, les scories devant l'intensité du feu montent en surface. Les épreuves sont là pour révéler notre véritable caractère, notre véritable profondeur de foi. On en est où à l'école de la foi? Jamais pour nous disqualifier. Le feu de Dieu est là pour que quand le feu de l'ennemi vienne, il ne puisse pas t'atteindre. Il ne puisse pas te détruire. Le feu de Dieu est là, non pas pour nous détruire, nous, mais pour détruire des traits de caractère, des attitudes, des façons de penser, de réfléchir, d'agir, des liens qui sont sur notre vie et parfois qu'on ne soupçonne même pas. Et Dieu permet les épreuves. Qui a fait des études ici? Vous êtes allé à l'école. Imagine-toi l'étudiant qui arrive chez lui le soir et dit, « Maman, c'est pas juste, la maîtresse m'a fait passer un examen. » Oui, c'est normal qu'on te fasse passer des examens. Mais oui, mais il y a l'épreuve du bac qu'ils appellent en France. Je ne sais pas comment ils appellent ça en Suisse, mais vous êtes tous au courant de l'épreuve du bac. On appelle ça une épreuve. Mais ça sert à quoi l'épreuve du bac? Ça sert à déterminer à quel niveau tu as assimilé l'information qui t'a été transmise pendant l'année scolaire. N'est-ce pas? C'est à ça que ça sert un examen. T'en es où par rapport à la compréhension de la matière qu'on t'a enseignée? Quelle proportion de cette matière t'as compris? Et si tu as compris suffisamment pour avoir le résultat, tu passes le bac. Sinon, tu es recalé parce que tu n'as pas compris. Bien, Dieu, il dit, vous êtes à l'école de la foi. Soyez pas étonnés que je vous fasse passer des épreuves. Je veux savoir, t'en es où par rapport à la foi? Elle est où ta foi? Est-ce qu'elle est solidement ancrée dans la parole de Dieu, dans la connaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, que même si une mère abandonnait l'enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, ton Dieu, jamais je ne t'abandonnerai ni te délaisserai, qui a dit que personne ne pourra te ravir de ma main parce que je t'aime, tu es gravé dans mes mains, ce Dieu-là veille sur nous, mais il permet des épreuves. Il y a des épreuves que c'est même Dieu qui va envoyer vers nous parce qu'il y a des leçons qu'on n'apprend pas. Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, la douleur va nous l'enseigner. Et rappelez-vous, les épreuves dans lesquelles nous sommes, depuis que notre vie a été donnée à Christ, n'échappent pas au regard de Dieu. Elles sont toujours là pour nous faire progresser. Une épreuve peut être quelque chose qui te fait chuter vers le bas ou c'est un escabeau qui te permet de monter plus haut. Dieu veut te donner une promotion. Et il a promis que jamais il permettrait que survienne dans ta vie une épreuve plus grande que ta capacité à y faire face en t'appuyant sur lui. C'est des promesses. Ça veut dire que peu importe l'épreuve, wow! Et quand il y a une grande épreuve, c'est que Dieu a vraiment confiance en toi. Réfléchis un peu. Si un professeur faisait passer à un élève de 12 ans un examen universitaire, tu dirais, c'est pas juste. Il faut aller par niveau. Mais c'est pareil avec Dieu dans l'école de la foi. Dieu, il nous donne des examens à la mesure de notre capacité à y faire face. Et jamais dans le but de nous disqualifier. Toujours dans le but de nous élever. Toujours dans le but de nous donner une promotion. La prochaine fois qu'il arrivera une difficulté, une épreuve dans ta vie, tu diras, « Wow, quelle confiance Dieu en moi. Il sait que je vais passer à travers. Il sait que je vais passer à travers parce que je vais m'appuyer sur lui. Je vais m'appuyer sur mes promesses, sur les promesses de Dieu et je vais garder la bonne attitude. Je vais louer Dieu malgré toutes les circonstances. Hein? Louer Dieu quand tout va bien, n'importe qui est capable de faire ça. Mais quand tu es dans le fumier jusqu'au nez puis il faut que tu te lèves sur la pointe des pieds pour dire « Seigneur, je t'aime quand même », tu commences à te démarquer des autres. Les gens de ton entourage à qui tu as témoigné que tu avais eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et qu'il était le chemin, la vérité, la vie et qui ne se sont pas convertis au moment que tu leur as témoigné, ils te regardent vivre. Moi, je viens d'une famille d'11 enfants. Quand je me suis converti, je suis arrivé tout feu, tout flamme, passionné pour témoigner à toute ma famille. J'avais rencontré le Christ. J'avais eu la révélation qu'il était véritablement le Fils de Dieu et qu'il était le seul chemin par lequel on pouvait aller au Père, le seul moyen par lequel on pouvait être sauvé, etc. Et mes frères et sœurs m'ont regardé, ils ont dit, « tant mieux pour toi, on te connaît, toi, il était temps qu'arrive de quoi dans ta vie. C'est bon pour toi, mais nous, ça va. Ça va. Puis de toute façon, on te connaît, Michel, toi, tu t'enthousiasmes rapidement, mais ça ne dure jamais longtemps. Ça fait 36 ans. C'est la seule chose dans laquelle j'ai persévéré de toute ma vie. Mais c'est la bonne. Alléluia! Je n'ai pas persévéré dans les autres parce que ce n'était pas la bonne voie. Maintenant, j'ai rencontré Christ et là, maintenant, je persévère dans cette direction-là. Et ma famille m'a regardé vivre. Et le plus grand témoignage que j'ai pu donner à mes frères et sœurs, et par la grâce de Dieu, certains sont venus à Christ et les autres, c'est à venir, ceux qui restent. Ça a été mon attitude dans l'épreuve. Pas mes discours. Comment j'ai réagi quand ils entendaient que je traversais telle épreuve, telle difficulté, et qu'ils s'attendaient à me voir découragé, à me voir le moral à terre. Et au lieu de ça, j'étais dans la paix, j'étais dans la joie, je chantais, j'étais de bonne humeur. Ils me disaient, attends, on a entendu dire que c'est vrai ce que tu... Oui, mais comment ça tu... Mais c'est parce que j'ai Dieu avec moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Hello? Est-ce que Dieu de victoire habite en toi? Donc, ça veut dire dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est la victoire qui va être l'issue finale. Pas la défaite. Pas la défaite. Mais pour ça, c'est une question d'attitude. Une question de foi. Ma foi est éprouvée parce qu'elle est plus précieuse que l'or pur qui pourtant est éprouvée par le feu. Il y a eu 3 ou 4 ans en arrière, un terrible incendie sur le quartier, en tout cas à Hollywood, Beverly Hills. Et il y a eu des centaines de maisons qui ont été détruites par le feu. Et le dimanche matin, il y a un pasteur qui est arrivé à son assemblée et il a mis sur la tribune un vase en céramique et il dit à l'assemblée, il dit, voici tout ce qui reste de notre maison. Tout le reste a été cramé, sauf ce vase en céramique. Et il dit, savez-vous pourquoi ce vase en céramique n'a pas été cramé? C'est parce qu'il avait déjà passé au feu. Quand tu acceptes de passer à travers le feu de Dieu, c'est pour que quand le feu de l'ennemi arrive, tu ne sois pas cramé. Tu as déjà passé au feu. Dis à ton voisin, assure-toi de passer au feu. Mais au feu de Dieu. Alléluia. Et le feu de Dieu est jamais pour nous détruire. Le feu de Dieu veut faire ressortir les scories, les imperfections, ce qui n'est pas au niveau de la foi qu'on devrait être, l'attitude qui n'est pas au bon niveau. Et Dieu permet qu'il y ait le feu de l'épreuve. Vous savez, quand il y a des feux hors contrôle, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont plus loin dans la direction où le vent pousse le feu et ils mettent le feu. Pour que quand le feu qui est hors contrôle va arriver dans la zone, il n'y aura plus rien à brûler et là, ils vont prendre contrôle du feu. Hello? C'est de la façon qu'ils procèdent. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il dit, hey, regarde comme un sujet de joie les diverses épreuves. Non, de joie complète. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand il arrive une épreuve, mon premier réflexe, c'est pas de dire « Hallelujah, gloire à Dieu! Oh, merci Seigneur, j'attendais cette épreuve! » Non, c'est pas tout à fait ça encore, mais sauf que je ne reste pas longtemps dans la pite aiguë. Parce que je me rappelle la prière du frigo. Dieu, pour te démontrer la confiance que j'ai en toi, je te dis merci d'avance pour tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui. Wow! Es-tu capable de dire ça à Dieu ce soir? Es-tu capable de dire ça à Dieu chaque matin quand tu te réveilles? Dis, Seigneur, pour te prouver la confiance que j'ai en toi, je te dis merci. Merci d'avance. Parce que je sais que tu es un bon Dieu. Tu veux des bonnes choses pour tes enfants. Je suis ton enfant. Et tu veux m'élever au niveau de la foi pour que ma foi devienne inébranlable. 1 Pierre 5:10. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Encore un peu de temps. C'est combien long un peu de temps? Eh bien, j'ai trouvé la réponse. Savez-vous, c'est combien long, un peu de temps? C'est jusqu'à temps que tu as appris la leçon qui est dans l'épreuve. Quand tu as appris la leçon qui est dans l'épreuve, l'épreuve disparaît et fait place à une épreuve plus grande. C'est vraiment génial, hein? C'est motivant, le message, hein? Très encourageant, hein? Mais c'est une promotion, Micheline. Parce que Dieu te fait confiance. Il dit, gloire à Dieu, ma fille Micheline a passé le test de la foi. Maintenant, je peux lui confier une épreuve plus grande pour que sa foi augmente et que sa foi, comme 1 Pierre 5:10 dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de grâce vous fortifiera, vous affermira, vous rendra lui-même inébranlable. Il n'y a plus rien qui va te déranger. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, il n'y a rien qui va t'atteindre parce que toi, tu sais qui tu sers. Tu connais ton Dieu. Tu as mis ta confiance à la bonne place, dans la bonne personne. Et lui, il veille sur toi. Il donne une promotion à chaque fois. Et plus grande est l'épreuve, plus grande est la bénédiction qui suit la victoire dans l'épreuve. Alléluia! Alléluia! Ouais, l'épreuve, c'est pour te donner une promotion. Qui dit promotion dit augmentation de salaire. Dieu veut te bénir plus. Quand tu passes le test de l'épreuve, le test de la foi, il dit « Mon juste vivra par la foi ». Or, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est quand l'épreuve, tu es capable de chanter, de louer Dieu. Il y avait une personne qui était suicidaire, qui était... toute sa vie, c'était des épreuves, il n'en pouvait plus, puis a décidé de se jeter en bas d'une de vos montagnes en Suisse, et elle est là au bord du précipice, et a crié un dernier cri de désespoir, puis a dit, « La vie est méchante! » Et l'écho de répondre, « Chante, chante, chante! » Quand la vie est méchante, chante! Pourquoi chante? Parce que Dieu est en contrôle. Mon Dieu règne. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette situation. Mais Dieu va me dire, pour espace, quoi? Il va m'apprendre des choses là-dedans. Il va brûler des liens que je ne soupçonne même pas. Il va affermir ma foi. Il veut me rendre inébranlable. Et il veut me démontrer que même dans la fournaise de l'épreuve, il est là avec moi. Alléluia! Et donc, je peux chanter. Psaume 18, verset 4. « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de quelques-uns de mes ennemis. » C'est-tu pas extraordinaire? Qu'est-ce que je dois faire pour être délivré de mes ennemis? « Loué soit l'Éternel! » Je m'écris, loué soit l'Éternel! En toutes circonstances, ma louange sera dans ma bouche, parce que je vais louer le Dieu qui, lui, s'est rendu obéissant par les souffrances qu'il a connues. N'oublions jamais que celui de qui nous nous disons être les disciples est un homme de douleur, un homme de souffrance. Il sait c'est quoi la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle il est là dans la fournaise avec nous. Il compatit avec nos souffrances. Et je ne minimise pas les épreuves et les difficultés dans lesquelles on peut se trouver. Il y a des situations qui sont dramatiques. Pendant les 7 ans qu'on a opéré le bon samaritain près de Dijon, j'ai entendu des histoires d'horreur. J'avais peine à croire ce que les personnes me racontaient de ce qu'elles avaient subi depuis leur enfance. Et malgré ça, je disais, mais quel courage tu as. Purée, tu as survécu à travers tout ça. Mais c'est extraordinaire. Imagine-toi la force, la capacité que tu as. Et ça, c'était sans Dieu. Maintenant que Dieu est avec toi, imagine-toi ce à quoi tu peux faire face. Wow! La puissance. La puissance de louer Dieu dans l'adversité. La puissance d'être capable de lever les yeux et de dire, « Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas la situation dans laquelle je me trouve, les injustices que je subis, mais toi, tu as subi des injustices. Et toi, tu n'as pas ouvert la bouche. Toi, tu n'as pas murmuré. Toi, tu ne t'es pas plaint parce que tu savais que ton Père était pour te donner le dernier mot, que ton Père était pour te donner la victoire. Et sans son obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix et sa résurrection, on serait où, nous, aujourd'hui? Il ne faut jamais oublier ça. Et lui est avec nous. Lui est avec nous. Je voudrais terminer avec un des exemples qui m'a beaucoup aidé dans beaucoup de situations de ma vie. Et c'est tiré du livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3. Vous savez, de tous les prophètes de l'Ancien Testament, il y a un prophète que je n'aurais pas voulu être, c'était Jérémie. Et d'ailleurs, lui-même ne voulait pas être prophète. Et Dieu l'a presque obligé à être prophète. Et tout ce qu'il prophétisait, c'était du malheur, parce que le peuple était rebelle, le peuple avait des faux dieux, et le peuple refusait de revenir à Dieu de tout son cœur, et donc Dieu permettait des épreuves et envoyait des situations, et c'est Jérémie qui devait leur dire tout ça, et donc ils ont essayé de le tuer, ils l'ont mis en prison, ils l'ont jeté dans une citerne, puis etc. Et donc Jérémie, avec tout ce qu'il a vécu, c'est normal que Dieu lui ait permis à lui d'écrire un livre de lamentation. Pardon? Merci beaucoup. Tu me rassures. Mais le livre des lamentations... Non, mais soyons honnêtes. Une petite séance de lamentation, de temps en temps, ça fait du bien. Hein? C'est de se lâcher un peu et dire, purée, c'est pas juste ce qui arrive. Puis... Mais il ne faut pas rester dans cet état-là longtemps. Juste l'évacuer un peu. Tu sais? Et écoutez bien ce que dit Jérémie au chapitre 3, le verset 18. Un prophète de Dieu. Écoutez ses paroles. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Un prophète de Dieu qui, devant l'adversité, les épreuves, les difficultés de la vie auxquelles il fait face, en arrive à dire, je n'ai même plus d'espérance en l'Éternel. Vous vous imaginez à quel niveau il est? De découragement, de dépression, tellement les difficultés sont difficiles, comment l'épreuve est lourde. Et ce n'est pas une épreuve, c'est une après l'autre, depuis des années. Sa vie n'est qu'une une continuité d'épreuves et de difficultés, et ça l'a usé. Il en vient un moment de sa vie où, dans l'honnêteté que Dieu demande de chacun de nous, on arrive à dire « Je n'ai plus de force et j'ai perdu tout espoir en l'Éternel. » Et là, il prend conscience de quelque chose. Il dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme se souvient de ces choses, elle est abattue au-dedans de moi. » Mais là, il continue. Mais il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, mon Dieu. » Voici un homme qui passe d'une profonde dépression au point de déclarer qu'il n'y a même plus d'espérance en l'Éternel à un homme qui loue Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Les circonstances ont changé? Non. Les épreuves ont disparu? Non. Les difficultés ne sont plus là? Non. Il a compris quelque chose. Ce à quoi il pensait avait un effet direct sur l'état de son âme. Quand il pensait à tout ce qui n'allait pas, quand il parlait de ce qui n'allait pas, son âme, en se souvenant de ces choses-là, était abattue. Mais il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se sont renouvelées pour moi ce matin. Oh, que ta fidélité est grande, mon Dieu! Alléluia! Par passer d'une dépression à une adoration, il avait simplement compris que c'est lui qui avait le zapper. Vous connaissez ça, le zapper, télécommande? Vous savez, mesdames, cet appareil que vous souhaiteriez avoir, mais c'est toujours le mari qui l'a. Et Jérémie a compris que quand il était sur Enfer FM, il était découragé. Mais quand il allait sur Ciel FM, il reprenait espoir. Ça redonnait de la vigueur à son âme. Ça lui donnait de l'espérance pour aller une journée plus loin, jusqu'à la victoire complète. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, qui as la télécommande. Le zapper, c'est toi qui le détiens. Tu peux entendre tous les messages qu'il y a. Tu peux lire la Bible 25 fois par année, écouter des messages du matin au soir. Si tu ne décides pas de croire Dieu, de croire sa parole, de croire qu'il règne, de croire qu'il est tout-puissant, de croire qu'il t'aime, de croire qu'il est un bon Dieu, et il y a des projets non de malheur, mais de bonheur pour toi, pour que tu aies un avenir plein d'espérance, que peu importe les médias de ce qu'ils diront par rapport à l'économie ou ceci ou cela, ta source, c'est Dieu. Ce n'est pas l'entreprise dans laquelle tu es, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ceci ou cela. Si ta source est en Dieu, cette source ne sera jamais épuisée. Jamais. Et chaque matin que tu te réveilles et que tu as un souffle de vie en toi, tu peux dire, merci Seigneur, tes bontés se sont renouvelées pour moi ce matin et tu es avec moi aujourd'hui. Et peu importe ce qui va m'arriver aujourd'hui, je te dis merci d'avance parce que je sais que tu es là, je sais que tu es tout puissant et tu ne permettras jamais que survienne dans ma vie une épreuve plus grande que ma capacité à y faire face, attendu que je m'appuie sur toi. Et donc, la télécommande, le zapper, c'est toi, mon frère et ma soeur, qui l'a. On peut t'exhorter, t'encourager, prier pour toi. Mais si demain, face à l'adversité, face à la difficulté, tu replonges dans ce que tu étais, hey, reste pas là. Rappelle-toi que Dieu règne. Rappelle-toi que ses bontés se sont renouvelées pour toi ce matin et qu'il est là pour te donner une promotion. Une promotion. Une promotion. Il y a une petite pensée que j'avais lue sur Internet qui disait « Ils nous ont enterrés, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Et si on réfléchit à la puissance dans cette parole, en voulant t'enterrer, diable, il fait toujours une œuvre qu'il trompe, parce qu'on est des graines de semences pour l'Évangile, des graines de semences pour annoncer le royaume de Dieu autour de nous. Et John Wesley, je termine avec ceci, un des plus grands évangélistes, disait, Il encourageait les foules. Il disait, « Bien-aimés, je vous encourage à témoigner en toutes circonstances et si nécessaire, à parler. » En voulant dire, tu t'es affiché comme chrétien dans ton entourage, ton milieu de travail, ta famille, savent que tu es chrétien, ils te regardent vivre. Et ils vont te juger dans l'épreuve. Ils vont voir en quel Dieu tu te confies par l'attitude de foi que tu vas démontrer dans l'épreuve. Et ça parle plus fort que tous les discours. Quand tu vois des hommes et des femmes qui, malgré l'adversité, malgré tout ce que tu entends qu'ils ont vécu ou qu'ils vivent, et tu les vois dans la joie, dans la paix, et à louer Dieu, tu dis, attends, leur Dieu a quelque chose. Leur Dieu a quelque chose. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Nebuchadnezzar? Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise, il n'y avait que les liens de brûlés. Leurs vêtements, leurs cheveux n'avaient pas été touchés. Et le roi a ordonné un nouveau décret. Quel a été le décret? Que maintenant, tout le monde devait adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'il n'y avait aucun autre Dieu qui existait qui pouvait les délivrer comme leur Dieu les avait délivrés. Wow! Wow! Et il me vient juste la semaine dernière, dans notre culte personnel, Corinne et moi, on lisait dans Esdras, et il y a quelque chose qui va avec le message que je viens de vous partager et que j'aimerais conclure avec ce verset. Je ne l'ai même pas mis là-dedans, tu vois, mais je vous le dis par cœur. Esdras 8, 14. Esdras, il est devant un roi et il dit au roi qu'il était venu sous la protection de son Dieu. Et là, il s'apprêtait à traverser un territoire hostile et dangereux. Et il venait de témoigner au roi qui était sous la protection de Dieu. Et là, il dit au verset 14, « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte pour traverser la région périlleuse qu'on s'apprêtait à traverser parce que j'avais dit au roi que je venais sous la protection de Dieu. » Et Dieu nous a protégés. Dieu les a exaucés. Si on témoigne d'une part qu'on a rencontré un Dieu vivant, mais qu'après on cherche des moyens du monde dans nos épreuves, dans nos difficultés, qu'est-ce qu'on a que le monde n'a pas? Qu'est-ce qu'on a que le monde n'a pas? Et Esdras dira, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte après lui avoir dit que mon Dieu me protégerait. Et je disais, wow, c'est combien de fois, et moi y inclus, on témoigne de la confiance qu'on a en Dieu, Dieu va pourvoir ceci, cela, mais après, on cherche nous-mêmes les solutions et à résoudre le problème ou à se mettre sous la protection de quelqu'un d'autre alors qu'on a témoigné que notre Dieu nous protégerait. Je crois qu'il y a de quoi réfléchir par rapport à notre attitude. Vous savez, je ne suis pas un prophète, ni de malheur, ni tout court. Il m'arrive de donner des prophéties, mais c'est quand, dans les moments de prière, etc. Mais par les temps, dans la saison dans laquelle nous sommes, les temps iront pas en s'améliorant. Ça va aller de mal en pire. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça annonce le retour prochain de Jésus-Christ, si c'est notre espérance. Mais avant qu'il revienne, je crois qu'il y a une mission qui est là, qui nous a été confiée, j'en parlerai demain matin dans le message. Mais notre attitude, dans les temps où tout le monde s'inquiète, où il y a une angoisse sur toute la terre, où les gens maintenant sont inquiets avec la nouvelle élection de Trump et tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux et les inquiétudes que ça crée chez un et chez l'autre. Mais nous, même si la terre était ébranlée, est-ce qu'on croit que celui qui va avoir le dernier mot, c'est notre Dieu, celui en qui on a mis notre confiance? Lui, il n'est pas là en train de dire, « Oh purée, qu'est-ce qui vient d'arriver là? J'avais pas prévu ça, c'est quoi le plan suivant? » Non. La Bible dit que Dieu est au ciel, puis il rit. Il se rit de ce que les hommes peuvent faire. Ils se rient de toutes les décisions qu'ils peuvent se prendre. Les hommes pensent qu'ils ont un pouvoir quelconque, une grêle, juste enlever les abeilles sur la terre, puis c'est la catastrophe planétaire. Et une abeille, t'enlèves les abeilles, c'est fini, t'as pas besoin d'une bombe nucléaire, t'enlèves les abeilles, c'est fini, on mange plus. Puis Dieu est là en haut, puis il voit les hommes s'inquiéter, faire toutes sortes de manigances, des alliances qui sont pas de cœur, qui sont juste par intérêt, dans le but de toujours dominer, manipuler. Mais celui qui se confie en Dieu, et dans le même livre des Lamentations, Jérémie dira, et je termine vraiment avec ceci, « Dans les derniers temps, nous verrons à nouveau la différence entre le croyant et le non-croyant, entre le juste et l'injuste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » On va voir une différence. Ça va se voir comment, la différence? Par notre attitude. Alors que les gens s'inquiètent, les gens se découragent, les gens ont peur. Puis toi, tu es en paix, puis toi, tu ne t'inquiètes pas. Tu dis, pourquoi? Mais c'est mon Dieu. Laisse-moi te parler du Dieu en qui j'ai mis ma foi, en qui j'ai mis ma confiance. Ce Dieu-là, il règne, mon Dieu règne. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Il m'aime, c'est un bon Dieu, il veut le meilleur pour moi. Pourquoi je m'inquiéterais? Pourquoi je me ferais du souci? Merci Seigneur pour aujourd'hui et demain, je ne suis pas certain d'être là. Alléluia. Merci aujourd'hui que tes bontés se sont renouvelées pour moi. Ta fidélité est grande. Dieu, ce qu'il a dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je ne voudrais pas terminer sans un appel. Parce que je ne minimise pas les épreuves, les difficultés dans lesquelles on peut être. Mais j'aimerais juste vous encourager ce soir, par la prière, à juste zapper Ciel FM. Allez sur Ciel FM. Enfer FM, c'est tout ce qui ne va pas. Tous les problèmes. On répète les choses qu'on entend négatives. On parle beaucoup de nos épreuves au lieu de parler à nos épreuves. Il y a juste une petite conjonction de différence. Au lieu de parler de mes épreuves, si je parle à mes épreuves au nom de Jésus, m'entendre parler à mon épreuve au lieu de m'entendre parler de mon épreuve, est-ce que ça peut faire une différence selon vous? Une grande différence, hein? Parce que, peut-être pas vous, mais souvent on a tendance, quand on la raconte plusieurs fois, ça, on exagère un petit peu et ça prend de l'ampleur. Mais quand tu parles à ton épreuve au nom de Jésus-Christ, ça diminue, elle n'augmente pas, parce que ton Dieu est plus grand. Alléluia! Voulez-vous, on va se lever ensemble? On veut juste tendre nos mains vers Dieu. Je crois que Dieu attend de nous une déclaration ce soir. Un positionnement. Est-ce que quelqu'un est capable ce soir de dire, Seigneur, je te remercie pour l'épreuve dans laquelle je suis. Toi qui as levé la main pour dire, je suis dans une épreuve qui est très difficile présentement. Mais à la lumière de ce que Dieu a parler à mon cœur à travers sa parole ce soir, pas sur l'émotion, mais par une décision dans mon cœur, parce que j'ai compris, Seigneur, que tu règnes, que tu es un bon Dieu, tu veux le meilleur pour moi. Et au lieu de dire pourquoi ça m'arrive, je vais dire pour espace quoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quels sont les liens que tu veux brûler dans ma vie? Quelle est la leçon que je dois tirer de cette situation pour être promu? Pour aller plus loin, plus haut dans ma marche avec toi et dans ce combat de la foi et dans cette épreuve de la foi. Alors, si ce soir, dans ton cœur, sincèrement devant Dieu, tu es prêt à dire, Seigneur, merci pour l'épreuve dans laquelle je me trouve, dis-le maintenant à haute voix, dis-le-lui, dis-lui, dis à ton Dieu, parle à ton Dieu ce soir. Et peut-être comme Job, tu peux dire, je ne comprends pas pourquoi il y a telle et telle chose, telle et telle situation. Mais Seigneur, ce soir, je veux dire merci. Merci pour la situation dans laquelle je suis. Et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et je t'aime. Et je veux déclarer en face de mon adversaire aujourd'hui, l'accusateur, le tentateur, le voleur, le menteur, celui qui vient pour me voler ma foi, qui voudrait m'emmener au découragement, à l'abattement, à croire que Dieu m'a abandonné, à croire que Dieu s'est terminé, il ne s'occupe plus de moi, je suis foutu. Je veux dire à cet adversaire, eh bien, ma position aujourd'hui, c'est de déclarer que mon Dieu règne et que c'est lui qui aura le dernier mot dans ma situation et je lui fais confiance et je le remercie pour la situation dans laquelle je suis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On veut... Oui, chérie, viens.
Comme c'est enregistré, je veux juste rectifier le verset. C'est Esdras 8, verset 22. Et je veux le lire, car j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi, car nous avions parlé au roi en disant, la main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent. Et donc nous aussi, Seigneur, on a parlé en bien de toi déjà dans plusieurs situations. On a élevé ton nom dans nos vies sur plusieurs situations et des personnes qui nous sont proches l'ont entendu. Alors maintenant, on aurait honte de se comporter autrement que de continuer à te faire confiance, à lever nos yeux vers toi, à nous réjouir de traverser cette épreuve avec toi parce que tu es avec nous et que tu vas nous faire aller plus loin, tu vas nous amener au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Tu veux nous faire aller au-delà des limites même que la situation d'avant nous aurait maintenu captives, mais par cette traversée, par ce que nous allons vivre à travers cette épreuve, tu veux élargir l'espace de notre temps, tu veux nous faire voir autrement et autre chose. Et nous voulons vraiment faire gonfler notre foi ensemble en voulant croire que ce message est pour nous, pour chacun de nous, dans n'importe quelle situation on peut se l'appliquer et croire que tu veux nous faire aller plus loin. Merci Seigneur d'augmenter notre foi. Augmente-nous la foi. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On demeure disponible si vous avez besoin d'un temps de prière personnel avec vous. Corinne et moi, on est à votre disposition. Et il y a la table de livres aussi, de notre matériel, des bons enseignements, des bons livres pour vous aider à toujours développer cette attitude du plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Et le culte demain est à 10h. S'il y a des visiteurs qui ne sont pas de l'Assemblée, 9h30. OK. Amen.